Famille, justice, enfance.
Bonjour et bienvenue sur Famille, justice, enfance sur RLP 102.3. Un nouveau direct depuis Coulommiers-Chamiers ce soir. Un direct avec Nicolas Vintot. Nous allons parler d'unicité de la locataire, nous allons parler de cash, nous allons parler de plein de choses. Mais avant, il faut que je vous explique deux, trois petites informations dans les actualités. Premièrement, comme vous le savez peut-être, je suis actuellement candidat dans une liste aux européennes qui s'appelle Défendre les enfants avec Gaël Costemeunier en tête de liste. C'est lui qui a pris le leadership pour cette opération. Le temps qu'on essaie de faire porter notre message durant la campagne électorale. Vous aurez d'ailleurs une interview demain sur RLP à 8h du matin avec Luc Rodegrave qui nous a fait 30-35 minutes d'études du programme. C'est intéressant. Suite aux règles de l'art comme l'autorité de régulation des communications qui est passée nous voir hier, en tant que candidat, je dois m'abstenir de passer à l'antenne tant que je suis candidat. Donc, si nous pouvons déposer la liste début mai, je vous quitterai tous pour toutes mes émissions et toutes mes interventions jusqu'à début juin. Si nous ne formalisons pas, je vous rejoindrai donc début juin. Voilà, c'était pour les informations. Et en attendant, aujourd'hui, nous allons rejoindre Nicolas. Nicolas, bonjour. Tu es avec nous, tu nous entends ?
Oui, je vous entends.
Oui, bonjour Nicolas, merci d'être venu. Alors, Nicolas Vintot, on se connaît depuis 2018. Tu as participé à l'opération du 16 mai 2018. Tu étais à l'époque sur Castres, hein, je crois, vers là-bas.
Oui.
Et puis tu as participé aussi à l'opération du 16 janvier ainsi qu'à d'autres. Et tu es notamment célèbre en France pour une jurisprudence contre la CAF. Bah, déjà, attends, on va commencer par reprendre un petit peu ton parcours, ta présentation, afin que tu nous expliques ce qui t'a amené à faire ces démarches administratives.
Ok, bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc moi je suis séparé depuis 2011 et en 2014, donc j'ai deux enfants. J'ai toujours demandé l'équité parentale et la résidence alternée. Et en 2014, janvier 2014, un jugement donc du JAF a dit non, c'est pas une résidence alternée, ce sera un droit de visite très élargi que j'aurai. Donc ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'en gros, j'ai les enfants à 45% du temps. Donc, j'ai les enfants, moi, jusqu'au lundi soir. La maman les reprend le mardi soir jusqu'au mardi suivant. Donc, en gros, c'est une alternance 6 jours, 8 jours et d'accord, puis la moitié des vacances. Pas de pension alimentaire à payer, mais la moitié des charges scolaires et extrascolaires à financer.
D'accord.
Considérer dès le départ que c'était pas très juste, que c'était une vraie résidence alternée dans les faits. Mais bon, j'ai pas eu envie d'aller plus loin. L'important était que je pouvais être papa et père et m'occuper de mes enfants pour de vrai. Donc,
oui, ça n'a pas de prix, ça, bien sûr.
Sauf que j'ai pas mesuré l'impact administratif de cette décision à l'époque. Et en fait, très rapidement, je me suis vu reprocher par la CAF d'être défaillant. Et j'ai compris plus tard que pour la CAF, s'il y a une résidence principale sans pension alimentaire, il y a défaillance automatiquement. La CAF n'a aucun moyen.
Qu'est-ce que tu appelles défaillance ?
C'est comme si on ne s'occupe pas des enfants.
Oui, mais donc, pour la CAF, ce n'est pas grave.
La CAF, dans ses formulaires, n'a aucun moyen de pouvoir écrire que j'accueille mes enfants quasiment à mi-temps et que je paye la moitié des charges.
D'accord.
Donc, ça veut dire que pour la CAF, c'est comme si mes enfants n'étaient absolument pas avec moi. En fait, je me serais barré à l'autre bout de la France sans m'occuper de mes enfants et sans donner de pension alimentaire. Ça aurait été pareil.
D'accord.
Et donc, la mère a reçu donc l'allocation de soutien familial pendant trois mois après la décision de la justice, je crois, du juge. Et alors qu'elle reçoive une allocation de soutien familial, moi je m'en moque. Par contre, je veux pas qu'on me dise à moi que je suis défaillant. Ça non. Je veux pas être pareil à quelqu'un qui se barre et qui ne s'occupe pas du tout de ses enfants.
Ouais, je comprends.
Donc j'ai contesté. Alors au début j'ai contesté par en téléphonant, et puis j'ai fait des courriers. La CAF répondait que oui, mais non, vous en faites pas. C'est pas qu'on vous considère comme défaillant, mais nous on est obligé dans notre système de faire comme ça. Bon, peu importe. Et puis, au bout de 4 ans, j'en ai eu marre, en fait. J'en ai eu marre. Et donc, j'ai cherché en 2018 ce que je pouvais faire. Et puis, en regardant les textes de loi. Alors oui, et aussi pourquoi j'ai commencé à regarder les textes de loi, je commençais un peu à à savoir lire les textes de loi, parce que c'est pas par hasard qu'il y a des avocats, c'est aussi un métier.
Oui, mais tu t'es formé sur ta problématique, tu t'es formé sur ton affaire et tu as commencé à avoir une expertise sur ça.
J'ai commencé à me former à ça au niveau professionnel, parce que j'ai aussi attaqué en justice le ministère de l'écologie au niveau professionnel qui me prenait la tête. J'ai gagné mes procès. Et j'ai compris que la justice administrative, c'était vraiment pas mal.
J'ai beaucoup de bons échos par rapport à ça. Oui. C'est peut-être la seule qui fonctionne encore à peu près bien actuellement.
Ouais.
D'accord.
Ouais, c'est vraiment. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment bien, quoi.
D'accord.
Et alors aussi, bon, voilà, j'ai aussi milité, donc comme tu l'as dit en introduction, là, quand il y a eu le mouvement avec toutes les manifestations sur toute la France devant les tribunaux, donc avec Toumani que tu as interviewé la semaine dernière, là.
Tout à fait, oui, entre autres.
Organisé les événements dans le Tarn.
Mais notamment chez nous, il y avait Paul Besson, il y avait Stéphane Tardy, il y a du monde de cette opération qui est encore un peu, qui est impliquée dans cette européenne, là, ouais. Gaël notamment.
Mais en fait, j'ai été très déçu parce que je me suis rendu compte que tout le monde s'en fout, en fait. Enfin, l'administration, on n'a pas rencontré un seul avocat, pas un seul juge sur Castres, pas une seule personne de la préfecture ou de conseil régional, enfin départemental. Donc, pas mal déçu, quoi. Et en fait, donc en regardant les textes de loi ensuite, je suis tombé sur l'article qui dit que les allocations sont versées à la personne qui assume la charge globale et permanente, je crois qu'ils appellent ça, pour les enfants.
Et donc, on arrive au point de l'unicité de l'allocataire du Code de la Sécurité sociale. C'est ça.
Ah non, ça n'en parle pas du tout de ça.
Ah pardon.
Ça n'en parle pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a un texte qui dit clairement c'est les charges sont versées, enfin les aides sociales sont versées à la personne qui c'est la charge exclusive et permanente, je crois qu'ils appellent ça, pour les enfants. Et donc là, moi, j'ai considéré que, mais attendez, j'accueille mes enfants à 45% du temps, je paye la moitié des charges, donc j'assume la charge globale ou permanente, enfin, je ne sais plus exactement les termes, mais c'est à peu près ça, pour 45% du temps ou 5% des charges du montant. Je ne vois pas pourquoi, j'aurais rien.
Bien sûr.
Vu que le JAF, de toute façon, ils n'en ont rien à foutre. Ils s'en foutent de ces discussions-là. Quand j'étais retourné au tribunal en 2015 devant le JAF pour demander l'équité parce que je trouvais que c'était pas juste. Et puis même mon revenu à l'époque j'étais à zéro au revenu, hein, donc c'était une période difficile financièrement. Et puis le tribunal, le juge aux affaires familiales considère que les aides sociales c'est pas son sujet. Donc comment on fait là? On est un peu coincé. Donc voilà. Donc fort de mon expérience devant le tribunal administratif au niveau professionnel. Je vois ce texte, je considère que c'est mon cas. J'assume la charge de mes enfants pour la moitié du temps, ou au moins pour la moitié de la charge. Je regarde après les impôts. Les impôts, ça y est, avec eux, dès 2018, les impôts ont accepté de considérer que mes enfants étaient en résidence alternée. Donc, même si dans le jugement, c'est pas marqué, je leur ai expliqué, je leur ai envoyé le jugement, je leur apporte la preuve que j'assume la charge pour moitié. Donc, les impôts, là, j'ai demandé un rescrit aux impôts. Ils ont accepté que je déclare mes enfants comme étant en résidence alternée, tout en déclarant aussi les charges réelles que j'avais.
D'accord.
Parce que normalement, quand il y a résidence alternée, tu déclares pas les charges. C'est inclus dans leur calcul. Sauf que moi, j'ai déclaré la résidence alternée parce que c'était les faits et les charges réelles parce que je considère que comme je n'avais aucune aide sociale, donc dans ce cas-là, mes charges réelles pour les enfants devaient être déduites de mon imposition. Même si ça changeait rien parce qu'encore une fois, j'étais pas imposable. Mais dans le principe, c'est juste de le faire comme ça.
Bien sûr.
Et les impôts l'ont accepté. Donc du coup, après tout ça, en 2019, j'ai réécrit à la CAF pour demander l'équité parentale, enfin le partage des aides sociales. Ils ont refusé. On a eu une enquête de la CAF aussi. L'enquêteur de la CAF a confirmé que tout était juste, qu'on ne mentait pas, que tout ce qu'on disait était vrai, mais ça n'a pas permis de partager les aides. Et donc, au final, je suis allé devant le tribunal. Alors, à l'époque, c'était effectivement le tribunal de grande instance pour le service qui s'occupe des affaires sociales. Alors, ce que j'ai fait, l'avocat que j'ai rencontré n'avait pas le temps de monter le dossier. Donc, en décembre 2019, j'ai saisi le tribunal tout seul, faisant un dossier par moi-même. Et ensuite, l'avocat a repris la main ensuite. Donc, la première conclusion du tribunal, c'est qu'on a perdu en première instance. Pour quelle raison? Je pense surtout que c'est une histoire de juge. Alors, on a eu deux juges différents. Le premier juge, c'était intéressant. Le premier juge, clairement, a laissé mon avocate parler. Et elle a pu faire une superbe démonstration. L'avocate que j'ai eue, je veux la citer, si tu le permets, c'est
Marilyn Préjot.
Marilyn Préjot sur Albi.
D'accord.
Elle a été extraordinaire. Franchement, elle a fait un superbe boulot, sachant qu'elle a été payée uniquement avec l'aide juridictionnelle et que franchement, le peu qu'elle a touché pour le travail qu'elle a fourni, c'est scandaleux qu'il soit payé aussi peu.
Oui, avec une jurisprudence.
Dans mon affaire,
tout à fait. Puis une jurisprudence.
Il y a tout à faire.
Il y a un travail qui va avoir une répercussion au niveau national. Hein. La jurisprudence que tu as obtenue, là, elle va avoir une très très grande répercussion.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Alors, il faut expliquer aux gens, de manière générale, que la sécurité sociale, je crois, considère que pour un enfant, il y a un seul compte bancaire, une seule destination. Et la CAF va t'expliquer que tu ne peux pas, en fait aussi, parce que c'est un autre problème, on va essayer de globaliser un peu la chose là, tu ne peux pas diviser les allocations. Donc, en cas de résidence alternée ou de temps partagé, ils vont te dire, vous n'avez qu'à alterner une année sur l'autre. Ce qui n'est pas fonctionnel, ne prend pas du tout en compte, ne lisse pas du tout les événements de la vie de vos professionnels. Et rémunérateur. Et en fait, si tu veux, le fait de pouvoir avoir, de déclarer nos charges aux impôts et à la CAF, au prorata du temps de présence de l'enfant, et d'avoir les allocations, les différentes aides au prorata du temps de l'éducation, n'est pas possible au jour d'aujourd'hui via le code de la sécurité sociale. Et tu me disais que, d'ailleurs, ton avocat estimait qu'il y avait là-dessus aussi également un problème de constitutionnalité.
Ben oui, parce qu'il y a une discrimination. Donc, ça veut dire que dans une situation similaire, deux personnes ne peuvent pas avoir des effets différents. Et donc, là-dessus, mon avocate pense qu'il y a un problème constitutionnel. Mais par contre, le tribunal ne l'a pas considéré, la cour d'appel. Donc,
d'accord.
Pour bien faire, il aurait fallu que j'aille plus loin.
Vers la tribunal constitutionnel lui-même, quoi, la cour là-haut. Quoi. D'accord.
Ouais, enfin, cour de cassation, pour contester cette décision sur l'aspect plus constitutionnel. On ne l'a pas fait, on s'est arrêté là. Le jugement qu'on a eu quand même très positif, parce que c'est la première fois que la CAF donc, est condamnée. Elle est condamnée, enfin, ce n'est pas la première fois qu'elle est condamnée, mais c'est la première fois qu'elle est condamnée à considérer une résidence. Enfin, un droit de visite élargi comme étant une résidence alternée. Donc, ça veut dire que là, ils n'ont pas le choix. Aux yeux de la CAF, même si dans le jugement du JAF, c'est marqué résidence, droit de visite, la CAF est obligée de me considérer comme étant, de considérer mes enfants comme étant en résidence alternée. Donc, ça, c'est déjà très positif. Et ce qui me semble être très positif aussi avec ce jugement, c'est qu'il ouvre la porte. Justement, à ce que tu disais, à plus d'équité en fonction du temps de vie, de présence des enfants chez chacun des parents.
Bien sûr.
C'est-à-dire que peu importe ce que raconte le jugement, à partir du moment où quelqu'un s'occupe des enfants, qu'il assume la charge effective et permanente pendant au moins un temps, eh ben, il a droit à quelque chose. Voilà. Et ça, c'était, alors, c'est un pari que j'ai fait parce que bon, quand j'ai saisi le tribunal, soyons clairs, mes enfants commençaient déjà à être grands. Là, maintenant, j'en ai un, il a 19 ans. Voilà, c'est pas ce que j'en ai récupéré financièrement qui a changé grand chose. Par contre, je l'ai fait pour deux raisons. La première raison, c'est que mes enfants ont aussi une chance sur deux de se séparer. Voilà, enfin, statistiquement, c'est ça. Hein. Et j'aimerais bien que dans le futur, ils se retrouvent pas dans cette situation-là. Surtout mon fils. C'est souvent les hommes hein, qui sont entre guillemets qui sont victimes dans ces situations-là.
Oh, pas que. Je pense que c'est bien de le globaliser majoritairement. Cas de pension alimentaire, c'est majoritairement versé par les hommes. Tu as raison.
Non, mais je suis d'accord.
C'est bien. C'est très très bien d'aller vers un système d'équité d'égalité sur ce point. Il y a vraiment un intérêt collectif et global à le faire. Je suis d'accord sur ça.
D'accord.
Oui, tout à fait.
Complètement. Oui, complètement. Et l'autre raison pour laquelle je l'ai fait, c'est plutôt l'aspect militant. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que de manifester, ça sert pas à grand-chose. Les gens qui montent sur les grues, ils sont vraiment en souffrance. Et puis, au général, c'est eux qui se font déglinguer ensuite encore plus. En fait, on n'y arrive pas, quoi. On nous écoute pas. Et donc, je me suis dit, mince, mais et si on utilisait l'outil administratif, en fait, la justice, c'est une arme. C'est la seule arme. Chose que fait l'État. Et le droit en lui-même est juste, tel qu'il est déjà écrit, de mon point de vue en tout cas, ou de ce que j'ai pu constater. C'est déjà juste. Donc je me suis dit, si j'arrive à gagner ce procès, l'idée derrière, ce serait d'arriver à inciter un maximum de gens à attaquer en justice l'administration. Parce que, imagine les administrations qui se retrouvent avec des milliers de procès dans tous les sens. Mais quel qu'il soit, une école qui n'envoie pas qui ne respecte pas la parole d'un des parents et qui permet du coup à un parent de désinscrire l'enfant pour l'inscrire ailleurs, il y a une faute de l'État. il y a une discrimination parce qu'il avait une autorité parentale qui n'a pas été respectée.
Bien sûr.
Eh ben, il faut attaquer l'école.
Bien sûr.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Alors là, ce que tu es en train de résumer, c'est exactement le pivotage que le monde associatif a effectué en 2020-2021, où on s'est dit que après les événements récents en France, aller manifester déjà n'avait plus aucune incidence, et en plus devenait extrêmement mal connoté. C'est-à-dire qu'à l'époque, oui, nous, on avait fait nos manifestations, tu sais, on demandait le droit de papouner, de mamouner, de s'occuper de nos enfants, en fait, hein, tout simplement. Donc on n'était pas, on était dans une logique très pacifiste et très communicante. Mais après, notre pays a connu les gilets jaunes, a connu des problèmes extrêmement violents. Et déjà, il n'était pas souhaitable de s'associer à ce genre de phénomène. Ça desservait très clairement la cause. Donc, nous avons globalement arrêté ces principes de manifestation. Et deuxièmement, je pense beaucoup à Claude Néris, hein, qui a beaucoup accompagné Équité Parentale. Claude Néris, qui nous a quittés il y a un an et demi, qui dirigeait à l'époque SOS Exclusion Parentale. On avait fait plusieurs lives, avec Maître Tapiero, Maître Hamas et autres. Et nous avions très clairement axé, nous, un changement de comportement en se basant sur le tribunal administratif. Et le tribunal administratif et l'autre procédure qu'on encourageait, c'était la plainte pour faux en écriture publique. Et en se basant sur les faux en écriture publique et en se basant sur le tribunal administratif, eh ben, on avait réussi à redevenir le petit moustique qui empêchait le grand géant dans la chambre de dormir correctement, de ronronner, de fonctionner par les habitudes. Alors, le tribunal administratif, c'est un peu compliqué, hein, c'est différent des juridictions habituelles. Hein. En France, il y a un tribunal civil, c'est là qu'on va, ce qu'on appelle le JAF, juge aux affaires familiales. On parle des divorces, des pensions alimentaires, etc. Il y a le juge des enfants, qui est encore une autre juridiction. Là, on commence à parler de protection de l'enfance. Il y a un chevauchement de juridiction, mais c'est encore ailleurs. Il y a le tribunal pénal, c'est encore autre chose, c'est lorsqu'on porte des plaintes pour violence, etc. Et le tribunal administratif, c'est très souvent encore un bâtiment différent, un bureau différent, une formation différente, des juges différents. Vas-y, explique-nous un petit peu qu'est-ce que c'est que le tribunal administratif.
Alors, tel que je le perçois, pour moi, le tribunal administratif, c'est du droit pur et dur. Il n'y a pas d'émotion dans ce tribunal. C'est aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est une procédure écrite.
D'accord.
Ça veut dire que tout qui est envoyé est étudié. Il y a un truc qui est vachement intéressant quand on va à une audience au tribunal administratif, c'est qu'il y a deux magistrats qui sont sur place. Il y a le rapporteur public et le juge. Et le rapporteur public, c'est lui qui commence à parler. Et il va raconter l'histoire, ce que le demandeur demande, comment il le demande et comment se défend l'État.
Mmh.
Et à la fin, il va faire des recommandations au juge. Mais il va étudier chaque point. Donc, ça veut dire qu'il va voir, il va regarder est-ce que ce que dit l'un ou ce que dit l'autre, c'est du droit. Ça rentre dans le droit. Qui a, du point de vue du droit pur et dur, a raison? Et après, l'avocat peut répondre. Par exemple, dans la procédure qui m'avait opposée au ministère de l'écologie au niveau du boulot, le rapporteur public avait fait une erreur dans son analyse. On a pu y répondre pendant l'audience. Et effectivement, il a constaté qu'il avait fait une erreur et il l'a rectifié direct pendant l'audience. Mais le rapporteur public, il peut parler longtemps. Encore une fois, alors moi, c'était pas le cas, moi, dans l'audience, puisque c'était encore tribunal d'instance avec le pôle affaires sociales. Là. Maintenant, c'est tribunal administratif, ces histoires-là. Mais à l'époque, quand moi, je suis passé, je devais être un des derniers à passer encore dans cette juridiction-là. Donc, il n'y avait pas de rapporteur public. Mais il peut parler longtemps. Dans l'histoire qui m'a opposé au ministère de l'écologie pour le boulot, le rapporteur public, il a parlé 25 minutes.
D'accord.
Donc, c'est-à-dire pour que ce mec-là parle 25 minutes, imagine le dossier qu'il a créé derrière, toute l'étude de la paix. Alors, il y a un truc qui fait aussi généralement, il essaye toujours de réduire la faute de l'État, de trouver des circonstances atténuantes pour l'État. C'est aussi son rôle. Mais c'est bien aussi. Parce que du coup, il va vraiment aller... Déjà, ça nous donne raison, c'est que vraiment, on a raison.
Oui, et puis aussi, il fait remonter l'information parce qu'il n'a pas envie qu'un même problème se répète aussi.
Complètement, complètement. C'est pour ça, je pense que c'est un tribunal qui fonctionne encore très bien. C'est parce qu'il n'y a pas d'émotion, c'est du droit.
Oui, on en a parlé avec Claude, il y a aussi pas mal de dossiers. En fait, tu écris un mémoire, tu envoies ton dossier par pièce écrite et il y a beaucoup d'affaires qui sont jugées sans même qu'il y ait de plaidoirie ou d'intervenant. Il y a assez peu d'avocats, donc on n'y a pas...
Il y a des allers-retours.
Il y a des allers-retours, tout à fait. Oui. Mais il n'y a pas ce système d'un intermédiaire qui vient, qui va enflammer la situation, qui va se mettre à mentir ou jouer sur l'émotionnel. On est vraiment sur de la rigueur, sur du texte. Et c'est visiblement, c'est beaucoup plus fiable. Voilà,
C'est une procédure écrite, encore une fois. Donc, tous les écrits sont pris en compte, réellement.
Tout à fait.
Il y a le temps aussi. C'est-à-dire qu'on écrit, la partie adverse va répondre, on peut répondre encore par écrit, etc. C'est pas quelque chose qui se passe vite, là, devant le juge. Et voilà. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment sérieux et qui, et je pense, ça permet de résoudre plein de problèmes parce que finalement, les décisions des juges aux affaires familiales ont des conséquences derrière sur tout ce qui nous environne et on peut plus se défendre. Donc, finalement, si l'affaire familiale, c'est n'importe quoi, ça a des conséquences sur les décisions administratives derrière. C'est pas juste, c'est discriminant, c'est peu importe.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Et là, on va enchaîner sur le point de programme de la liste qui rejoint effectivement ta démarche. Alors déjà, avant, en préliminaire, là, je voudrais dire que ce que tu as fait ouvre, à mon avis, la voie à une procédure de questions en constitutionnalité. Il y a un bureau pour cela, c'est le tribunal constitutionnel qui existe. N'importe quel citoyen a le droit de saisir et de poser une question en constitutionnalité. Tu verras avec Paul Besson, par exemple, qui était aussi avec nous en 2018, qui est passé sur cette antenne il y a 2 ou 3 semaines. C'est quelque chose qu'il a déjà évoqué. Déjà, tu vois, tu as ouvert une porte pour ça qui pourrait être intéressante. Nous, dans le programme, ce que nous voulons, de manière générale, ce que vraiment nous demandons et ce qu'on veut, voilà, ce qu'on défend et ce qui nous paraît absolument logique, c'est que tout ce qui soit déclaration aux impôts, ce soit pas en question de part ou de demi-part, mais ce soit vraiment au prorata du temps de présence, que tout ce qu'on déclare à la CAF par rapport à nos enfants, encore une fois, quel que soit l'enfant, adoptif, réel, il y a un droit parental, que ce soit au prorata du temps de présence, et que tout ce qui soit aide de la société, donc allocation rentrée, calcul CAF et autres, soit également au prorata du temps de présence. Et 4 jours par mois, c'est également un temps de présence. Donc nous, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une automatisation qui soit effectuée par rapport aux pensions alimentaires, par rapport aux impôts, par rapport au point de la CAF, parce que tout est aujourd'hui informatisé, la transition numérique, les impôts sur le revenu ont su le faire avec France Connect. La CAF a absolument accès à tout. Elle a su se numériser. La sécurité sociale a su se numériser. Il est absolument anormal qu'aujourd'hui, parce que tout dépendrait en fait d'un tribunal qui est là pour sanctionner, normalement, mais qui fonctionne encore en truc papier, on soit dans des process absolument antidiluviens. Donc on veut faire bouger les codes et en fait, ce que tu fais rejoint quelque part les demandes globales d'une partie de la population.
Oui, je suis d'accord avec ça. J'aimerais rajouter quand même sur ma perception qu'il pourrait y avoir un équilibrage qui se ferait en fin d'année avec les déclarations d'impôts.
Bien sûr, absolument, une régularisation en janvier, mais tu vois, ça pourrait être automatisé.
Le partage au prorata, oui.
Bien sûr.
Si un des parents gagne beaucoup plus que l'autre, évidemment, et il faut qu'il ait moins d'aide que le premier.
Oui, bien sûr. Mais ça, c'est calculable, c'est automatisable. Tu fais une grille. Bien sûr. Mais ça, c'est automatisable. Tu fais un rééquilibrage, tu fais une grille annuelle. Et puis, les calculs, tout étant informatisé aujourd'hui, ils ont tout. Ils ont nos charges sociales, ils ont nos déclarations d'impôts, ils ont absolument tout. Donc, il suffit en janvier de rééquilibrer les balances comme ils le font pour notre administration. Et puis déjà, en faisant ça, tu décharges toute la partie du tribunal civil du JAF sur tout ce qui concerne ces calculs de pension alimentaire et autres. Tu enlèves quasiment 25 à 30% des audiences. Et tu décharges les tribunaux.
Au moins, ils vont pouvoir se concentrer. Ils vont pouvoir se concentrer sur ce qui est important parce qu'il y a quand même des cas qui sont terribles.
Donc, c'est désengorger les tribunaux et deux, c'est éviter cette discrimination. Il n'est plus possible de considérer aujourd'hui que pour un enfant en France, il y a un seul compte bancaire et un seul interlocuteur. Ce n'est plus vrai depuis très longtemps et il faudrait que tous ces calculs se fassent effectivement, vu le nombre de familles recomposées de notre pays qu'il y a, se fassent vraiment au prorata du temps de présence. Voilà.
Oui, je suis d'accord.
D'accord. Bon, pour toi, quelles sont les prochaines étapes? Vers quoi tu t'orientes? Est-ce que tu t'arrêtes ici ou est-ce que tu quittes à monter un collectif et une cagnotte? Est-ce que tu tirais sur autre chose?
L'objectif, quand j'ai lancé la procédure, c'était derrière, en cas de victoire, de communiquer et d'essayer d'inciter un maximum de gens à aller dans cette voie-là, attaquer les administrations pour discrimination ou autre. En tout cas, dès qu'il y a une faute, y aller. Avec l'idée que s'il y a des milliers de procès, c'est l'administration qui va dire aux JAF, oh là.
Non, mais l'État n'aime pas se faire condamner. Bien sûr. Je renvoie les gens aussi vers Fabien Wald, qui est avec nous, qui a fait condamner l'État pour déni de justice. Donc, c'est-à-dire qu'un système qui fonctionne mal, aujourd'hui, il fonctionne mal. Le tribunal administratif va dire que oui, effectivement, il fonctionne mal et l'administration devra s'adapter. Alors, nous, on n'est pas là que pour critiquer et pour casser, parce que dans nos propositions, tu as vu, vraiment, on les aide. On demande à ce qu'ils aient plus de moyens, puis on demande à ce que les choses inutiles, délégables, soient déléguées. Mais bon, il y a vraiment... Et toi, tu n'as pas envie de monter au Conseil constitutionnel, là, par
après,
exemple
Après, le problème que j'ai eu, moi, à titre perso, c'est que j'ai pas réussi à aller plus loin et à faire la deuxième démarche, justement, de communication et tout ça. J'ai pas réussi. Parce que
t'es très pris, parce que t'es extrêmement pris. Moi, je t'ai lancé plusieurs fois pour faire cette émission pour qu'on en parle, t'avais pas le temps. Ton avocate n'a pas pu se libérer aujourd'hui. Et donc, le Conseil constitutionnel, si on t'aide un petit peu, tu penses que tu pourrais prendre la main sur ça, le leadership un petit peu, là?
Je sais pas. Franchement, je sais pas. Là, je suis à nouveau en procès contre le ministère de l'écologie parce qu'ils ignorent le jugement qui a déjà été rendu. Il y a un an, j'y suis retourné.
Ça use, tout ça, c'est compliqué. Ça use, c'est fatigant.
C'est compliqué, d'accord. C'est compliqué. C'est à titre perso, c'est compliqué.
En attendant, cette jurisprudence qui est trouvable sur Internet, on la mettra en commentaire du podcast, ouvre la voie à une requête au Conseil constitutionnel. Si quelqu'un veut s'en emparer, la porte est ouverte. Là, il peut le faire.
Oui, je pense qu'il y a moyen de faire des choses derrière,
Ok. Ouais,
j'espère. Super. C'est parfait. Dommage que mon avocate n'ait pas été là
En
parler.
Si elle pourra venir plus tard, moi je l'accueille avec grand plaisir. Si elle veut s'exprimer sur notre antenne, tu lui indiqueras qu'on a encore beaucoup de points techniques et qu'il est possible de discuter. Très bien. Nicolas, merci. Je rends l'antenne. Je vous dis à tous au revoir pour un certain nombre de semaines. Vous serez avertis par la rédaction quand je reviendrai. D'ici là, soyez sages. À bientôt. Et puis, Nico, à bientôt aussi. Au revoir.
Merci, à bientôt.
Famille, justice, enfance.